En sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Lorsque le destin, sans s'y attendre, trouve devant lui un trésor, il ne le ramasse pas lui-même, il cherche un homme. Voilà un petit proverbe sanskrit pour accueillir dans le fauteuil d'en sol majeur une femme qui a du destin à revendre. Lubna Abidar, comédienne de Much Loved, film qui a fait scandale au Maroc et sensation en France il y a 3 ans. La vie de cette petite fille pauvre de Marrakech qui se retrouve un jour à monter les marches du Festival de Cannes n'a rien du conte de fées. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aux yeux d'un pays arabo-musulman, jouer le rôle d'une prostituée est encore un crime. Lubna Abidar, à la fois icône et survivante, est venue avec ses cicatrices, ses projets de film, un album musical et son histoire. Dans son autobiographie, elle raconte ce qui lui vaut très tôt ce surnom d'Abidar Khatar, c'est-à-dire Abidar la dangereuse. Bonjour et malhaba Lubna.
Bonjour et merci.
Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une féministe ?
Le mot féministe, c'est un peu difficile. Je suis une femme qui cherche la liberté, une femme qui cherche le respect.
Pourquoi c'est difficile comme mot ?
Parce que les hommes aussi, ils ont des problèmes. Le mot féministe, je trouve que c'est un petit peu... C'est pas le moment de dire ce mot.
Voilà. C'est un mot qui sépare les hommes des femmes.
Voilà, et c'est pas bien ça. On a besoin de les hommes aussi.
Est-ce qu'on peut dire aussi que vous êtes une dangereuse ?
Un peu dangereuse, oui, certes pour la politique de mon pays, pour beaucoup de gens et qu'ils n'ont pas envie que je parle.
F.
F comme. Fille de.
Vous êtes née, Lubna Abidar, en 1985 à Marrakech. Vous êtes fille de qui ?
Je suis fille de Petit Sam, de Omar. Je suis amazir, arabe, mélangé. J'ai née dans une famille très pauvre, mais j'avais de la chance d'être une femme différente. Voilà, parce que quand je vois mes cousines et je vois toutes les femmes de ma famille qu'on a le même âge, je dis merci que j'étais différente.
Vous racontez alors l'histoire de votre mère qui s'appelle effectivement, c'est un prénom que j'avais jamais entendu, Bdissam.
Elle... C'est le sourire.
Le sourire, c'est joli. Et vous racontez que le jour où elle est en train de jouer à la marelle, elle a 14 ans comme ça, elle est sur la terrasse du Riad, ce jardin marocain. Qu'est-ce qui lui arrive ce jour-là ?
Bah, c'était la préparation de son mariage.
Donc elle est mariée évidemment avec un homme qu'elle ne connaît pas,
ouais.
Qui est plus âgé
qu'elle.
Qui ne
le connaît pas non plus. C'est seulement son père qui connaît mon grand-père et la famille, ça parlait. Le monsieur lui dit, bah, tu me donnes une de tes filles. Et mon grand-père a choisi ma mère.
Comment se déroule ce mariage ? Comment il finit ?
Très mal, bah, comme tous les mariages, ça commence comme ça, ça termine comme ça au pire. Et après ça, une femme divorcée, qu'elle retourne chez ses parents, c'est la honte.
Elle est répudiée hein, par son mari.
Oui, bien sûr. Et après, c'est la honte pour toute la famille, une femme divorcée à la maison. Alors, elle devrait trouver une solution. Elle a trouvé mon père.
Alors c'est là qu'il rentre en scène, ce fameux père. C'est un amazir,
oui.
Un bel homme.
Oui.
Mais ce remariage avec cet amazir s'avère être un calcul de la part de votre mère.
Oui, parce que c'est pour ma mère, c'est pour se sauver de sa famille, de la société et tout. Pour mon père, c'est une femme belle qu'il a d'expérience, plus âgée par rapport à lui. Mais impossible parce que c'est une arabe, et lui c'est un amazir de Sousse. Les familles Sousse, ils n'acceptent pas de rentrer des femmes arabes et surtout divorcées. La seule chose pour sauver ce mariage, il devrait faire naître un garçon. Et là, comme j'appelle moi la catastrophe, c'est pas un garçon, c'est moi.
Vous avez une phrase incroyable, vous dites « La catastrophe de ma naissance a scellé mon destin ».
Oui, parce que pour ma mère, c'était la fin de son mariage, car je suis une femme. Et pour mon père, c'était vraiment la honte d'avoir une fille par un garçon.
Vous êtes élevée, vous le disiez un petit peu, dans une contradiction identitaire et une difficulté identitaire, puisque vous êtes et arabe, et berbère, ça veut dire quoi ça, au fond, au quotidien ?
Alors, déjà, nous tous au Maroc, on est tous des Amazighs. Et ça, je ne savais pas avant. Mais à la maison, quand on était petite, au milieu de mes cousines, elles m'appellent tous Shlaha, Shlaha. C'était vraiment une insulte. Shlaha, ça veut dire l'Amazigh. Et moi, je suis fière d'être Shlaha aujourd'hui. Mais avant, je ne savais pas pourquoi je suis différente. Pourquoi tout le monde il m'insulte à la maison en me disant Shlaha. Et vraiment, les Arabes au Maroc, ils ne sont pas 100% arabes. Ils sont mélanges. Et aujourd'hui, j'ai bien compris ça. J'ai fait ma recherche, j'ai lu beaucoup de livres. Je connais l'histoire du Maroc. Ça ne me dérange plus aujourd'hui d'avoir m'insulté avec le mot Amazigh.
Enfance terrible, donc, où vous êtes obligée, vous-même, très jeune, de travailler en cachette. Ouais. Vous faites quoi comme petit boulot?
Mais j'ai préparé des gâteaux et j'ai vendu ça sur la place de Jemaa el Fna pour des touristes. Grâce à ça, j'ai acheté du riz, du lait pour ma sœur et mon frère et mes besoins pour l'école.
إلا أن أقتبس خطابي هذا.
Alors on est un peu là dans le Maroc de votre enfance pour un seul majeur, Lougna Abidar, c'est-à-dire
c'est l'ambiance de la place de Jemaa el Fna avec la voix de Hassan II.
De quoi vous vous souvenez à son sujet?
Des ordres. Pour nous, Hassan II, c'était comme un père, il donnait les ordres au peuple. Il parlait l'arabe d'Arija. C'est pas comme le roi M6 qui ça parle l'arabe classique. Elle était beaucoup plus proche à nous, Hassan II, parce qu'il parlait d'Arija.
L'arabe de la rue.
Oui, oui.
Vous vous souvenez aussi de sa police secrète?
Oui, quand on marchait dans la rue, c'est interdit qu'on dit le mot mkhzen, interdit qu'on parle du roi, interdit si quelque chose à la maison, ça parlait politique à la maison, les enfants, on est interdit de répéter ça dans la rue parce qu'on peut disparaître.
Alors comme votre mère, Lougna, vous vivez vous aussi dans la médina de Marrakech. C'est un monde magnifique en même temps, hein, qui vit toute porte ouverte. Comment vous décririez ce monde?
C'est une petite paradis si on veut parler de l'amour. Le respect, ça existe là-bas jusqu'à aujourd'hui. Les gens tellement qu'ils sont pauvres, c'est une très grande famille. On se nourrit tous, on s'aide tous, on se lave dans le hammam tous. C'est vraiment un petit paradis qu'on ne peut pas trouver en Europe.
Je veux être une pute, comme dans les films que je vois à la télé. Les femmes belles, maquillées et libres qui jouent dans les films et que j'admire, je les appelle des putes parce que c'est le seul mot que j'ai appris. Chaque fois que ma grand-mère me voit les dévisager à l'écran, elle me lance... Ce sont des putes. Et quand je lui explique que je veux être comme elle, exercer le même métier, elle me répond que c'est mal d'imaginer une chose pareille, parce que je passerai du temps avec des hommes inconnus, que je resterai avec eux pendant le tournage, et il y a des tournages même la nuit. Je ne vois toujours pas ce qu'il y a de mal, et je continue à penser que pute est un mot normal. Le mot actrice, personne ne l'a prononcé devant moi. Je n'ai pas de raison de le connaître.
Alors c'est ce que vous racontez, Lougna Abidar, dans votre autobiographie intitulée La Dangereuse. Donc ce mot d'enfant est incroyable. Je veux être une pute. C'est évidemment pas une provocation dans votre bouche de petite fille. Votre grand-mère étant certaine que les putes des films n'iront jamais au paradis.
Oui, parce que pour ma grand-mère, le mélange déjà entre les femmes et les hommes dans les fêtes ou à la maison, c'est déjà on va à l'enfer. Imaginons des femmes qui se maquillent, qui parlent avec des hommes, des femmes fortes, qui peuvent retourner la parole à les hommes. On ne peut pas être comme ça, on est ses filles, on doit trouver une place au paradis.
Donc une femme qui joue dans un film avec d'autres hommes...
Ah ben c'est une prostituée royale. Grâce à une maîtresse, j'avais l'âge de 13 ans, 14 ans, qui m'a expliqué que non, c'est faux. Ce ne sont pas des prostituées, c'est une actrice. Tu dois faire des études pour arriver à ça et ce n'est pas facile. Et là, vraiment, c'était un très bon cadeau qu'il m'a offert, cette maîtresse.
Donc évidemment, peut-être à cause de cet interdit autour du cinéma, vous, Loubna Abidar, vous éprouvez une attirance terrible pour les salles obscures et vous racontez bien que vous usez de toutes les ruses, comme une vraie Scheherazade que vous êtes, pour voir ces films au cinéma, dans le cinéma de Marrakech. Quel stratagème, quelle idée vous avez pour arriver à vous procurer des cassettes VHS et voir les films comme on fait dans le
avait,
monde.
Il n'y avait pas encore beaucoup de films. Il y avait un marchand qui passait devant la maison de ma grand-mère et on se changeait tout le temps des cassettes vidéo pour puisse voir ça. Et pour nous, c'était le top, c'était les Spice Girls, pas plus que ça. Ça veut dire un cinéma assez pauvre, on ne connaît pas le grand cinéma. Et pour moi, c'était Louis de Funès dans ces cassettes-là. Pour moi, j'y croyais que c'était ça, le grand cinéma de le monde. De voir des vraies choses, lire des livres, aller vraiment participer dans des cours de théâtre ou des choses pareilles, c'était vraiment archi interdit. Et alors, il fallait falloir que je devienne maligne, intelligente pour gagner
5 dirhams.
5 dirhams, ouais.
Pour acheter cette cassette, c'est énorme.
C'était beaucoup.
Il faut que vous vous procuriez 15 dirhams, c'est le prix de la séance de cinéma, ça fait 1,50€, pour voir donc votre premier film dans un vrai cinéma, Spice World, des Spice Girls. C'est un film qui va absolument changer votre vie. Votre vie est différente après ce film.
Oui, mais pour le voir, on était obligé d'aller de Marrakech jusqu'à Casa. Comme ça, les gens, ils ne vont pas voir mon oncle nous ramener dans le cinéma. Ils vont le dire, ouais, t'es devenu un macro de ramener les filles au cinéma. On a fait le trajet de 3 heures en voiture de Marrakech jusqu'à Casa pour voir ce film.
Et pourquoi ce film, il a changé votre vie?
Alors, j'ai adoré ces filles parce que j'ai vu le poster devant le cinéma. J'ai vu ces filles qui sont magnifiques et belles et tout. Dans la salle, j'ai trouvé magnifique leur vie. J'ai trouvé ça, j'ai dit, moi, c'est comme ça. Moi, c'est ça. C'est ça ma vie. J'ai pris la décision, c'était très difficile pour accepter la décision en moi-même. C'est comme j'étais deux personnes. C'est comme je me montais à moi-même devant eux. Je dis oui, ils sont des prostituées, c'est pas bien ça, je veux être un médecin et tout.
Oui, à un moment donné, la parole de votre grand-mère finit par avoir raison de vous. Parce que quand on vous promet les flammes de l'enfer, vous vous dites, ben oui, peut-être que je vais vraiment finir en enfer. Donc à un moment donné, vous essayez de calmer cette attirance pour le cinéma.
Oui, mais heureusement que ça existe la lune et heureusement j'avais des doutes pour la religion. Parce que je reste à parler avec la lune, je pose des questions aux dieux, je dis pourquoi tu vas me ramener moi à l'enfer si je fais cette métier et tu vas pas ramener par exemple celui-là qu'il tue ou mon oncle qu'il boit d'alcool, il vient frapper sa femme. Pourquoi mon père qu'il me fait autant de mal, c'est pas parce qu'il fait la prière chaque fois par jour. J'avais plein de questions et vraiment j'ai abandonné l'idée d'être religieuse et c'est ça qui m'a beaucoup aidée.
H comme Hammam.
Alors il y a un lieu refuge dans cette vie et cette enfance assez terrible à Marrakech pour vous, Loubna Abidar, c'est le Hammam. Vous dites qu'aller au Hammam, c'est comme aller chez le psy.
Oui. Le Hammam, le taxi au Maroc, les femmes, ils parlent, on ne se connaît pas, ils montent, commencent à raconter mon mari, ma fille, il a fait, nanana. Et j'ai toujours trouvé que c'est comme une cabine de psy.
Et c'est le lieu aussi où vous rencontrez vos premières prostituées.
Oui.
Et vous êtes attirée par ces femmes, les prostituées?
Beaucoup. Je vois leur vérité dans le quartier, je vois leur gentillesse. Et impossible, ils vont aller dans l'enfer parce que tout le monde, ils nous fait aller acheter des choses et faire des trucs pour eux. Ils ne donnent rien du tout. Sauf les prostituées, ils nous donnent des bonbons et des petites pièces. Et quand on cherche dans leurs histoires, on trouve vraiment, sont des femmes, c'est la vie qu'il a choisie pour eux. C'est la société. C'est des femmes qui ont peur de Dieu. Ils ont peur de l'enfer. Ils sont en train de s'abîmer. Et j'avais beaucoup d'amour et de respect pour ces femmes, et j'ai jusqu'à aujourd'hui.
Le hammam, c'est aussi le lieu où toutes les cicatrices du corps se voient et apparaissent, et vous, vous en avez beaucoup de cicatrices sur le corps.
Ouais.
Quelles cicatrices vous avez ?
J'ai sur mes bras, j'ai sur mon front, j'ai une très grande sur ma poitrine, mais je rentre pas dans l'esthétique parce que chaque fois je passe un très grand tapis rouge, je gagne une très grande somme d'argent, je me déshabille, je me mets devant mon miroir, je caresse.
Pourquoi vous avez des brûlures de cigarettes sur la peau ?
Bah, mon père et la vie.
Parce que à 9 ans, vous avez changé de vie, vous quittez le riad qui est un peu le cocon quand même chez votre grand-mère pour rejoindre vos parents qui sont installés à deux pas de la place Jemaa el-Fna de Marrakech. Et la vie y est difficile, c'est-à-dire que votre mère fait tout, fait des ménages, donc pendant que votre père ne fiche rien, comme vous dites, sinon à part fumer du shit, son activité numéro un consiste à vous frapper. Mais il y a une chose plus grave, si j'ose dire, qui vous fait dire cette phrase terrible. La virginité est le plus gros mensonge du monde arabo-musulman.
Oui. Beaucoup de femmes ont perdu nos virginités à la maison, soit nos pères, soit nos frères, soit nos grands-pères. Mais on perd à la maison d'abord. Parce qu'on fait attention à d'or, on ne voit pas ce qui se passe dedans. Et moi, j'étais une victime à côté de beaucoup de femmes.
Donc vous êtes le bouc émissaire de la famille, du voisinage, de l'école, mais vous allez, parce qu'effectivement vous avez un caractère bien trempé, vous allez vous émanciper à 13 ans lors d'une scène incroyable avec votre père.
Bah, comme je travaille, c'est moi qui l'aide ma mère, elle ne faut rien. J'ai trouvé la force de le mettre d'or. Quand on me frappe, je ne sens plus rien. Qu'on m'insulte, je sens plus rien. J'ai plus rien à perdre. Soit je gagne dans ce moment, soit je veux perdre toute ma vie. Et voilà, j'ai gagné.
Vous devenez à ce moment-là ce qu'on appelle soutien de famille. C'est vous qui faites vivre vos frères et sœurs et votre mère. Comment vous faites ?
Mais j'avais l'idée de faire des sandwichs, des petites tagines. Et c'était un bon commerce avec ma mère.
Vous commencez à nourrir les ouvriers qui travaillent dans le quartier.
À côté de la place du Jemaa el-Fna, on préparait leur déjeuner. Et avec ça, on a fait un peu d'argent. Parce que ma mère commençait à aller à l'Arabie Saoudite, chercher des tissus, des choses pour revendre. Et c'est là où j'ai fait monter une petite femme d'affaires.
On racontera en seconde partie, Loubna Abidar, votre amour du cinéma, votre album aussi, parce que vous dansez, mais vous chantez aussi. Et puis cette carrière de comédienne brûlante qui est la vôtre. Mais tradition en sol majeur, vous avez programmé Souad Massi, avec une chanson qui s'appelle Rirenta.
Rirenta.
Pardon. Il n'y a que toi.
Il n'y a que toi.
Une chanson d'amour, pour panser les cicatrices.
Mais non, je suis amoureuse tout le temps. J'adore l'amour. J'écris sur l'amour, c'est vrai, je peux pas vivre sans amour.
Thank you.
Elle donne envie d'aimer, d'amour. Souad Massi sur RFI qui s'invite en sol majeur dans le programme de Loubna Abidar, une comédienne hors norme, beauté arabe et berbère à la fois, beau métissage, mais récit familial dramatique. Petite fille pauvre, issue d'une famille riche de Marrakech, elle entre très tôt en guerre contre les hommes et les préjugés de la société marocaine. Et puis, et ça s'appelle l'ironie du sort dans cette rediffusion, alors qu'elle rêve toute petite de devenir une pute, c'est comme ça qu'on nomme les actrices dans sa famille, Loubna Abidar est célébrée à Cannes en 2015 et agressée au Maroc pour avoir joué le rôle d'une prostituée dans Much Loved. Je me demandais justement, est-ce qu'il y a un proverbe en arabe pour dire que c'est l'ironie du sort ?
Non, mais ça ressemble à une fille, comme on dit à l'arabe marocaine. Et qu'est-ce qui m'est arrivé au Maroc, mon agression, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le mkhzen ? Ça veut dire, c'est la police, le mkhzen, c'est le régime pour qui je fuis, pour qui je me disparaître, peut-être. J'ai toujours un point d'interrogation là-dedans. Et peut-être des gens qui, leur sœur et leur mère, ils sont des prostituées. Et ils ne voulaient pas que je parle de ça. J'avais ces deux questions jusqu'à aujourd'hui. Et après le film aussi, tout mon parcours avant et après le film, j'étais pas gentille avec eux parce que je dis la vérité tout le temps.
C'est un petit problème. Je vous emmène au Cinoche, Loubna.
Oui, allez-y.
C'est comme Cinémascope.
Oui, un petit peu de temps moderne dans votre Cinémascope. Qui plus que vous, Loubna, aura désiré le cinéma dans ce Maroc des années 90? C'est fou ce que vous avez pu faire, gagner vos dirhams après dirhams pour aller voir une séance de cinéma ou louer une cassette. Votre culture cinéma, vous vous l'êtes faite en cachette, avec boulimie. Et il y a deux réalisateurs qui vous ont marqué tout de suite, c'est Chaplin et Polanski. Pourquoi ces deux-là ?
Parce que Polanski, surtout ses films, il me fait voyager, ses scénarios, ils n'étaient pas faciles comme les autres scénarios qu'on voit, parce que j'avais la culture du cinéma égyptienne. Et c'est facile.
C'est des comédies.
Les femmes trop maquillées. Et quand ils découvrent notre cinéma, c'est sûr, les premiers, ils vont t'attacher. Parce que je viens de rien pour voir la vraie.
Et Chaplin, vous avez imité Charlot dans Le Miroir ?
Beaucoup. Beaucoup. Je crois toutes les actrices. Beaucoup, beaucoup. Et surtout quand on fait du théâtre, ces mouvements et tout ça, c'est très important pour nous dans les cours de théâtre.
Pourquoi ?
Dans le technique de corps sur scène, c'est les premières choses avec quoi on commence.
Marcher en canard.
Oui, oui, oui.
Lorsque vous commencez à prendre des cours de théâtre, je me suis demandé si les prophéties de votre grand-mère ne vous avaient pas travaillé, ne vous avaient pas perturbé. Parce que pour cette grand-mère, je le rappelle, les actrices ne vont pas au paradis.
Non. Et les femmes qui le répètent un mot derrière l'homme, il ne va pas au paradis. c'était pire, ma grand-mère.
Donc, quand vous vous retrouvez sur un plateau à dire les mots d'une femme libre, éventuellement, est-ce que votre grand-mère ne vous traverse pas la tête?
Tout le monde était choqué, mais j'ai pris mes vêtements, j'ai décidé de me marier. Comme ça, je ne partiens plus à eux, je partiens à un homme. Comme ça, ils n'ont plus le droit de me dire rien du tout. Toutes les femmes musulmanes, elles ont ça. On trouve un accord entre les amis. Je te donne un peu d'argent. Tu viens, tu demandes ma main. Et on fait une petite fête de mariage. Surtout les lesbiennes, ils font beaucoup ça dans le monde arabe. Tu viens, un ami, on fait une fête de mariage devant tout le monde. On fait le papier. Tu fais ta vie à droite avec ton amoureux, parce qu'il y a des hommes gays. Et moi, je fais avec la femme que j'aime et tout va bien. Les deux familles sont contentes.
Donc, on loue un mari pour avoir une tranquillité sociale.
Oui, mais lui aussi, il loue une femme. Comme ça, il est tranquille. Ouais.
Et ça, c'est un marché qui
c'est existe. Un nouveau marché d'aujourd'hui, oui.
Qui va faire un film. Je le sens bien. Ce sera quoi l'histoire, en gros?
En gros, c'est la vie d'une jeune lesbienne marocaine.
Qui va jouer ce rôle de lesbienne?
Moi.
Est-ce qu'accessoirement, on peut dire que vous êtes une femme qui aime les hommes?
Mm-hmm.
Et que donc vous allez jouer, vous allez faire un personnage, nous allons être dans la fiction. Il y a bien deux Loubna Abidar, il y a une femme qui aime les hommes dans la vie, et une actrice qui à l'écran va jouer le rôle d'une lesbienne.
Oui, et ça c'est un hommage, un petit coucou pour toutes les lesbiennes du monde.
Est-ce que vous savez que sans doute une partie du monde arabe va penser que vous êtes vous-même une lesbienne?
C'est pas grave, j'ai pris l'habitude d'être tôt parce qu'après tous mes films aujourd'hui, je suis une femme très méchante car je suis prostituée, je suis une femme méchante, je suis une vendeuse de drogue, je suis beaucoup de choses, c'est pas grave.
Dès le début de votre carrière dans les téléfilms américains, Loubna Abidar... Vous dénotez par rapport aux autres actrices. Vous êtes différente des autres actrices.
Oui. Je suis un peu différente des actrices de mon Maroc à moi parce que je ne suis pas trop dans les clichés. Vous voyez, je ne me maquille pas, je ne me mets pas trop de paillettes. Je n'aime pas faire les photos à Tommy Bijoux pour montrer à les gens voilà qu'est-ce que j'ai reçu, machin. J'ai un but, j'ai un rêve. Je ne suis pas dans le cliché de l'étape rouge. Je fais ça parce que je suis la meilleure. Je déteste. Et malheureusement, dans le monde arabe, avec toutes les chirurgies plastiques et toutes ces tonnes de maquillages, la vision comme ils voient le monde, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne peuvent pas faire des grands films. Ils vivent encore dans le mensonge.
Quand vous entendez parler du tournage de Much Loved, on va en dire un mot. Donc, je rappelle, c'est ce portrait de prostituée de Marrakech. Ce film, en fait, que vous souhaitez faire au début, ce film de Nabil Ayouch, oui. C'est pas gagné parce que vous êtes une comédienne professionnelle et Nabil ne veut pas de professionnel. Il veut des vraies prostituées pour son film. Et puis il ne trouve pas la Noah, c'est le nom de votre personnage, il ne trouve pas la Noah du film. Donc il revient vers vous, mais vous avez changé d'avis, vous ne voulez plus à ce moment-là faire le film.
Oui, parce que j'avais peur, parce que je sais que c'est trop. Je ne savais pas que ce monde... assez cruel, assez lourd. Et je refais le scénario avec Nabil et je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. J'avais très peur.
Vous aviez peur de quoi?
J'avais peur de la police au Maroc. J'avais peur de ma famille. J'avais peur de mon amoureux. J'avais peur de beaucoup de choses. Mais grâce à le producteur, car il me parlait un peu au téléphone, Eric Poulet, je me mettais à pleurer. J'ai trouvé, oui, c'est vrai, si j'avais pas la force quand j'étais petite et l'idée de vendre ces gâteaux, aujourd'hui, je serais une prostituée aussi. Si j'avais pas le don d'aimer le cinéma et me concentrer sur le théâtre et tout ça dans mon enfance, j'aurais aussi me concentrer sur autre chose.
Et puis, vous avez peur d'une chose aussi en tant que comédienne, c'est d'une scène, la scène de nu.
Oui. C'est la scène qui existe aujourd'hui dans tous les sites porno.
Parce qu'elle a été détournée dans les réseaux sociaux et on l'a transformée en scène porno. Mais avant ça...
Avant ça, je l'ai vue. J'ai vu la scène dans ma tête avec le réalisateur. Je sais très bien ça veut dire quoi. Et c'est très touchant cette scène parce qu'il veut dire que nous, les femmes arabes, on a des sentiments aussi. On peut aimer et on peut être aimé aussi. C'est ça qu'il veut dire, cette scène. Je trouvais ça très touchant, mais c'est la vision d'un
réalisateur. On n'en est pas là au Maroc, c'est-à-dire une femme, a priori, ne peut pas aimer.
Ah non, c'est pas, il ne peut pas aimer, il ne peut pas jouir, ils ne sont pas l'amour et beaucoup de choses. Et je voulais, avec cette scène, de dire le contraire. Mais malheureusement, les musulmans et les arabes, une fois que tu es marocaine, tu partiens à lui. Ça veut dire, tu as fait une scène nude, tu l'as fait mal à lui. Parce que moi, quand j'ai parlé avec les gens après, j'ai dit, mais pourquoi j'ai fait mal à vous dans les débats au cinéma? Ils me disent, ouais, mais tu es musulmane, tu es ma sœur, tu es nude avec un Français devant les caméras, ça veut dire, tu me fais mal à moi, tu m'insultes en direct.
Tu me trahis.
Elle est votre copine, la folle.
Notre copine, la folle.
Ouais, une vraie cinglée.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Elle va pas avec les Arabes, elle préfère aller avec les Européens, elle.
Et elle aime les Européens.
Et elle aime le sida.
Elle aime le sida, elle aime vivre avec les cochons, les radins.
Ils payent pas, c'est des rats.
Ouais, c'est des radins.
Que des pinces, il n'y a pas pire.
Ils achètent les fruits à
l'huile. Avec eux,
une demi-banane, une demi-pomme.
Il faut qu'on leur apprenne la générosité.
La générosité coule dans vos veines. Attends, je vais te donner à manger.
Ouais, nourris-moi. Tiens, regarde, regarde, c'est ça la vraie générosité, c'est ça l'amour.
De quoi?
Regardez-les. Regardez comme elles nous gâtent, les petites marocaines.
C'est un peu plus vrai.
Nos femmes sont pas comme elles, c'est vrai. Elles sont moins intentionnées.
C'est sûr. Nos femmes sont comme ces morceaux de viande.
C'est un peu plus vrai.
في شيء اسمه سعودي.
سلام سلام. حنا أسياد العالم.
العالم.
صح صح. بس.
بس في حدا أسيادكم أنتوا يا أسياد العالم. المغربيات.
ما عندكم أنتوا بترول. إحنا عندنا بترول. نحن أسياد العالم.
إحنا عندنا بترول.
أي بترول فينا؟
إحنا بترول.
بترولكم أسود وعتم. ترى إحنا بترولنا ملون ومزقطر.
Voilà, comment ne pas se fâcher avec les Saoudiens après une scène pareille, extension majeure de Much Love de Nabil Layouch. Alors c'est intéressant parce que la version arabe, Laura Pinto, notre réalisatrice, me disait, mais elle est beaucoup plus sensuelle, cette langue arabe, que la langue française. On vous a donné les deux versions pour le même prix. Donc avec à l'écran l'explosion d'une comédienne, Loubna Abidar, vous avez remporté de nombreux prix et vous avez été nominée pour le César de la meilleure comédienne, donc en 2016. Mais il y a eu effectivement un scandale, le film qui n'a pas été vu d'ailleurs au Maroc, considéré comme pornographique, a soulevé un tollé. Il a été interdit, bien sûr, et il a soulevé un tollé auprès des courants conservateurs marocains. C'est quoi être actrice sur un film comme ça?
En fait, dès que tu travailles la première semaine, tu ne deviens plus une actrice. Tu deviens une femme qui a une responsabilité. Dans le casting, j'avais rencontré des centaines de filles.
Et c'est des prostituées.
Des prostituées, oui, mais... À un moment, tu es obligé d'être leur voix. Tu es obligé de faire quelque chose pour elles.
Pourquoi?
Parce qu'ils sont des femmes abîmées, des femmes qui sont obligées de travailler pour leur famille. Il y a des filles qui ont des enfants avec leur père ou avec leur frère. Et on ne peut pas parler de ça. Et de bout d'un moment, tu te sens que tu es une guerrière. Tu es en face à des très grands méchants. Tu dois dire beaucoup de choses. Ça veut dire, c'est plus une actrice. C'est plus l'actrice qui va s'habiller, se mettre belle et dire des belles choses devant l'écran. Ça devient vraiment une mission.
C'est quoi la différence entre une prostituée sale et une prostituée halal?
Une prostituée halal. Oui, parce que les Saoudiens, les hommes de le monde de golf, ils trouvent le halal et le haram à leur mode. Mm-hmm. Parce que quand ils boivent d'alcool, et c'est lors de la prière, ils vont aller faire la prière et retourner finir leur alcool. Une prostituée halal pour eux, c'est la femme qui a les cheveux noirs, longs, un peu grosses, qui ne sort pas avec les Européens, elle sort seulement avec les Saoudiens.
Oui, effectivement.
Et voilà, une prostituée pas halal, c'était qui va avec des chrétiens et des juifs.
Est-ce que vous regrettez d'avoir fait Much Love?
Non, pas du tout. Parce que grâce à le mal que j'ai gagné de Much Love, j'ai gagné beaucoup de belles choses. Et grâce à les deux, je peux faire maintenant mon film.
C'est-à-dire que vous avez trouvé votre identité de comédienne à travers ce film?
Oui, et j'ai enlevé la peur.
Vous dansiez, Loubna Abidar, et bien chantez maintenant. J'ai sous les yeux votre premier single intitulé « Bella Hanouna ». C'est quoi « Bella Hanouna » ?
J'adore le raï algérien. Et j'écoute beaucoup le raï algérien. Je trouve les mots d'amour algériens sont très touchants. Parce que « Hanouni »,« Hanounti »,« Amri »,« Kalbi », tout ça, on a volé des Algériens. Hein. C'est pas nous.
Pour une fois qu'on vole quelque chose à nos Algériens. Loubna Abidar, « Bella Hanouna », c'est pour un son majeur.
Bella Hanouna, Hanounet la Hanounet.
malgré les orages. J'ai du courage, je te cherche dans les nuages. Oui, il n'a que Habibi, oui, il n'a qu'il y a Hanoni. J'ai des rêves, j'ai des rêves, j'ai la beauté orientale. J'ai beaucoup d'amour, amène-moi où tu veux. Je comblerai tous tes désirs. Ramène-moi loin, encore plus loin.
Sur RFI pour en sol majeur, Loubna, femme serpent, qui joue avec toutes ses facettes, arabe, amazigh, occidentale et dangereuse. D'ailleurs, il faut vous imaginer dans votre riad de Marrakech, lorsque vous étiez gamine, le gendarme de Saint-Tropez ne vous avait pas échappé.
Écoutez-moi bien, vous savez que le gendarme est à la nation, que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées.
Bacon. Bleu, blanc, rouge.
Louis de Funès, donc notre patrimoine, notre comédien emblématique. C'est votre premier contact avec la langue française, Loubna ?
Oui. Et je ne comprenais rien du tout, mais je regardais quand même plusieurs fois.
Oui, vous ne compreniez pas, mais vous riez.
Ben oui, parce que c'est pas les dialogues, c'est le personnage lui-même. Pour moi, le français, c'était vraiment pas possible. D'abord, j'étais pas dans des écoles privées au Maroc, j'étais dans des écoles normales. Mais j'ai adoré cette langue après, et j'ai commencé après toute seule.
Mais malgré tout, il y a des bémols, il y a un bémol dans cette France. Vous souhaitiez par exemple vous exprimer sur la question de l'islamophobie.
Oui, l'islamophobie ici en France, on a peur, j'ai peur partout. Parce que je vois que les jeunes musulmans de France, qui sont des Français, des jeunes musulmans, ils ont compris l'islam à l'envers.
C'est-à-dire ?
Soit ils sont très musulmans d'une façon incorrecte, soit ils sont dans l'islamophobie 100%. Et ça, c'est faux. Ça, il faut vraiment... La France, elle devrait, dans les cités, de réveiller ça. C'est pas les mosquées qui vont aider ça. C'est pas les jeunes imams qui n'ont pas la barbe. C'est ça la bonne stratégie. Non, non. Il faut commencer de les maisons. Ça veut dire, pour moi, dans les cités, il faut remplir le temps de ces jeunes avec des vraies choses.
Qu'est-ce que vous dites aux féministes qui portent le niqab ? Il y a des femmes qui revendiquent d'être voilées avec le niqab. Hein,
non, le niqab...
En étant féministe.
Mais ils sont des malades mentales, ces femmes. Parce que ni dans le Coran... ni Mahomet, ni dans aucun livre, on a parlé de l'uniqab. Mais ça, c'est rien à voir avec l'islam. Ça, c'est vraiment une maladie qui fait partie de ces maladies modernes.
Est-ce que vous vous sentez un peu en exil ici en France ?
Un peu, oui. D'abord, ici en France, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le voisinage. Moi, je cuisine tous les jours, je dois faire une grande quantité. Tu vois, mon tagine, je vis toute seule, je ne veux pas le manger toute seule. Normalement, au Maroc, on partage ça avec les voisins. Et, le sourire, le soleil. Et aussi, c'est pas chez moi. Voilà.
Qu'est-ce que vous alliez dire ?
Je ne sais pas, je me sens 10 fois que les gens ici, les blancs, ils aiment beaucoup les blancs, ils ont un problème avec les autres. Et 10 fois, ça m'est arrivé la dernière fois, il pleuvait, j'avais un brushing, j'ai pris mon voile sur ma tête, seulement pour protéger mes oreilles. Et soudainement, j'ai senti la différence, tout de suite. Je ne suis pas une femme avec le voile, mais c'est une histoire de 5 minutes pour arriver à mon restaurant, le regard a changé déjà.
See?
J'ai comme Ginesse.
Est-ce que vous êtes toujours fâchée avec les hommes arabes, Loubna Abidar?
Un peu, oui. Ça va durer beaucoup des années, je crois. Les jeunes d'aujourd'hui, je suis un peu fâchée.
Pourquoi?
Parce qu'ils font rien, ils parlent trop. Voilà, toujours quand ils ne trouvent pas des solutions, on le retourne à la religion. Il y a aussi les jeunes arabo-musulmans aujourd'hui, quand ils voient une femme réussir mieux que lui, bah, tout de suite, c'est une prostituée.
Vous dites une jolie phrase, vous dites « Je suis l'Amazir qui fiche la pagaille chez les Arabes
». Un peu, oui.
Et vous vous y connaissez en pagaille, vous êtes une empêcheuse de penser en rond, hein, parce que peut-être pour lutter contre les préjugés entretenus par l'une ou l'autre communauté, vous avez très jeune fait un choix, vous avez vécu une histoire d'amour avec un juif.
Ouais. C'était une très belle histoire. Moi, ouais. C'est un peu comme c'était mon papa qui m'a sauvée, qui m'a appris. Ben, on avait une très grande différence d'âge. Jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie, mieux que le musulman. Il m'a protégée mieux que le musulman. J'étais trop fière de cette histoire.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu la mer, Loubna?
Oui, j'étais déjà grande.
Parce que c'est pas évident de voir la mer quand on est marocain.
Ben, je vis à Marrakech. Marrakech, il n'y a pas la mer. Et les vacances pour nous, c'était la ferme. Je nage aujourd'hui. La majorité de mes cousines, ils ont peur.
Vous vous souvenez aussi de votre activité numéro un quand vous étiez petite fille? C'était d'être allongée sur la terre, de rêver.
Ouais, avec la lune et les étoiles. J'étais sûre que derrière chaque étoile, il y a une autre vie. Et j'étais frappée pour ça.
Vous avez été frappée pour ça?
Ben, mes cousines, parce qu'on avait presque toutes le même âge, ils me voyaient, c'est comme je faisais une scène de théâtre. Mais les grands, quand ils viennent, ils disent que j'ai presque perdu ma foi, que je vais aller en enfer, et j'étais frappée partout.
Donc vous étiez une petite fille qui restait des heures allongée sur terre, qui rêvait, qui regardait les étoiles de longues heures. Et aujourd'hui, quand vous ne regardez pas les étoiles, quand vous ne parlez pas à la lune, vous écrivez. Et vous nous avez ramené un texte exprès pour en sol majeur. J'aimerais bien qu'on l'entende.
Alors, Habibi, Habibi nasitu an ansak, wa ma aqwa ala nisyanak. Ya ri tu'allimuni nisyanak wa kayfa aqdar. Mundu an iqtarabtu min anfasik, ashaqtu hayati. Iqtarib minni habibi, iqtarib li qalbi wasma' sarakhatih. Atuhu fi mashaa'ir qalbi as-samita. Akhafu an afqidak, akhafu min hubbik. أخاف من حب يتلاعب به القدر أخاف من أمل بعيد ما أنساك حبيبي.
Sa soif d'amour pour les hommes. Vous nous traduisez ça, Habibi?
Voilà, c'est une femme qui a décidé de partir, mais il a essayé de l'oublier, mais il a oublié qu'il doit l'oublier. Il retourne pour le dire, voilà, je t'aime et je peux pas vivre sans toi.
Donc le message en fait de la militante que vous êtes, c'est d'essaimer alors, l'amour en fait.
Alors pour moi, il faut s'aimer, il faut la paix pour arriver. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime pas le mot féministe de cette façon, parce qu'on peut pas vivre sans les hommes. Les hommes, ils peuvent pas vivre sans nous. Et alors, il faut trouver un équilibre. J'aimerais bien d'avoir le même salaire que mon collègue. J'aimerais bien d'avoir le même respect. Soit chez les juifs, soit chez les musulmans, soit chez les chrétiens. On aimerait bien d'avoir ça. Mais voler la force des hommes et les hommes voler la féminité des femmes, je suis contre.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire La Dangereuse, écrit avec Marion Van Rentergem. C'est aux éditions Stock, l'ai-je bien descendu. Et à écouter Bella Hanouna, votre premier single sorti chez...
Alors, mon premier single, bah, c'est une boîte de production que je ne me rappelle pas comment il s'appelle déjà. Et le single, j'ai attrapé une tumeur. Ça fait quelques mois.
À la gorge.
À la gorge. Et cette tumeur m'a fait beaucoup peur. J'y croyais que c'était maligne. Et j'ai arrêté presque toute ma carrière et j'attendais la fin. Et quand j'ai appris que ce n'est pas une maligne, que je peux guérir et tout, bah, j'ai chanté en joie. Voilà.
Donc c'est un cadeau.
C'est un cadeau à toutes les femmes qui ont peur pour le dire. Bah, le cancer, elle ne peut pas nous tuer si on est très forte.
Férouz, une femme forte du monde arabe,
très,
va refermer cet en sol majeur. Ça a été une influence pour vous?
Oui.
En sol majeur, avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio. Et puis, derrière votre poste, comme chaque samedi et chaque dimanche, à 14h10 temps universel, 15h à Paris, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous embarque la semaine prochaine avec Tigran Yegavian. À la semaine prochaine.